France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Cinéma, comment ça va avec le réel ? Élément de réponse ce samedi dans Plan Large avec Raymond Depardon et Claudine Nougaret et aussi Kirill Serebrennikov et Afsi Erzi et encore Entebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est encore une belle semaine qui s'est ouverte ce mercredi avec des films dérangeants et envoûtants, des révélations et des confirmations qui toutes s'emparent du réel pour faire cinéma dans tous les genres et toutes les formes. Nous entendrons ainsi tout à l'heure le trublion russe exilé Kirill Serebrennikov s'expliquer sur cette plongée au cœur du mal dans la tête d'un tortionnaire nazi en fuite qu'est la disparition de Joseph Mengele, son adaptation du roman éponyme d'Olivier Guèze. Afsi Erzi, l'une de nos plus grandes actrices, racontera comment elle a filmé le visage et le corps de Nadia Meliti, la jeune consoeur qu'elle révèle dans La Petite Dernière, son troisième film comme réalisatrice qui la confirme en grande cinéaste. En fin d'émission, vous aurez même droit, ça faisait longtemps, à un peu de comédie musicale par la voix de Entebin à l'occasion de la réédition d'un livre à ce genre consacré. Mais l'événement de la semaine, c'est le retour en salle des films de Raymond Depardon et Claudine Nougaret. Ça va nous occuper toute l'année, cette œuvre est découpée en quatre cycles thématiques, dont le premier est donc revenu sur les écrans ce mercredi. Ça s'appelle « Depardon citoyen » et ça rassemble de 1982 à 2017 sept films majeurs. San Clemente, Fait divers, Urgence, Délit flagrant, Muriel Leferle, Dixième chambre, Instant d'audience et 12 jours, des documentaires tous consacrés moins à des institutions répressives, la psychiatrie, la police, la justice, qu'à celles et ceux qui s'y débattent, ces entravés du langage que les dites institutions somment pourtant de verbaliser leurs souffrances ou leurs défenses. Pour les regarder et les écouter, pour nous les faire voir et entendre, il y a eu un homme, d'abord seul, puis un couple qui a, sur le terrain, inventé une véritable dialectique de l'image et du son. Ils s'appellent Raymond Depardon et Claudine Nougaret et nous avons profité de leur passage à Paris où ils signaient en librairie le nouveau livre de photographie du premier, Désert, pour les rencontrer au bar de leur hôtel et évoquer ce grand geste de cinéma qu'est le leur, un geste qui commence sur une île de Venise qui abrite un hôpital psychiatrique depuis devenu un hôtel 5 étoiles. À l'époque, on est en 1982, il faut un peu forcer la porte pour y entrer.
Qui è un ospedale, è un reparto, ci sono ammalati, vergognatevi. Fuori da qui, su. Via, non c'è autorizzazione per entrare. Ma chi vi ha autorizzato a questa gente? Vieni, ma va un po'. Ok, ci sono ammalati. Ma che siamo diventati? Ma non vergognate, non sapete questo ospedale. Fuori da qui. Ma vergognatevi, fate il favore.
Bonjour, Claudine Nougaret.
Bonjour.
Bonjour, Raymond Depardon.
Bonjour, bonjour.
Alors cette rétrospective commence par un premier volet, Depardon citoyen, et ça commence par un film de 1982 qui s'appelle San Clemente, et le film lui-même commence comme ça. Vous êtes devant une porte, il y a une patiente devant cette porte, elle toque à la porte, et puis elle entre, vous entrez à sa suite. Des patientes vous demandent « mais qui êtes-vous ? Vous êtes photographe ?» Et puis un médecin arrive et vous dit « mais qui vous a laissé entrer dehors ? Vous n'avez pas honte ?» Et il vous chasse. Qu'est-ce que ça dit, cette entrée en matière de la façon dont vous êtes entré dans les diverses institutions que vous filmez dans ce premier volet de cette rétrospective, Raymond Depardon ?
Oh ben, c'est quand même un symbole, oui, parce qu'on s'est
Enfin, c'est pas tellement en cinéma que je me suis fait, parce que j'ai rarement forcé les gens. Mais comme photographe, j'ai vécu, disons, 20-30 ans comme ça, de photographe. Vous rentrez pas, on se fait. Et donc, là, c'était un peu une caricature, quoi. Mais.
Non, c'est bien, moi, je trouve, parce que ça dit la surprise des gens de filmer le quotidien. Et la réaction de ce médecin, elle est celle de beaucoup de publics. Mais quel intérêt? Pourquoi vous faites ça? C'est ce que je vis tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, ça a beaucoup d'intérêt. Ça a beaucoup d'intérêt de donner à voir et de donner la parole à ce que l'on n'entend pas et que l'on ne voit pas.
Parce que c'est pas n'importe quel quotidien qui est filmé dans tous ces films qui sont rassemblés. C'est un quotidien d'individus face à des institutions et qui plus est des institutions répressives ou en tout cas qui doivent négocier avec ça et surtout trouver les mots à dire que leur demande l'institution. Est-ce que ces mots-là, cette attention à ce que les gens allaient essayer de dire, c'était déjà au projet au départ ou c'est quelque chose que vous avez rencontré et que vous avez décidé de filmer et d'enregistrer?
J'étais inconscient, vraiment inconscient, parce que si on regarde bien, ce premier film de 80 et le dernier qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, le dernier, 12 jours, c'est au contraire, c'est l'institution qui est venue nous chercher. Parce que, effectivement, l'institution a des règles, a institué des règles, en l'occurrence pour les gens privés de liberté, à l'hôpital de Lyon, psychiatrique, et le tribunal se déplace, il devient forain, comme ils disent, et donc c'est plutôt l'institution qui a fait un grand pas en avance. Et si on regarde bien, sur 40 ans, 35 ans, il y a quand même une transformation, c'est-à-dire que avant on disait toujours « mais il faut aller aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils sont plus ouverts que nous on est des pays latins, etc. » Alors c'est vrai que les premières film que j'ai fait là avec qu'on voit à Saint-Clément, et j'étais encadré, j'avais la bénédiction de Franco Basaglia, qui est un grand psychiatre italien, qui est devenu ministre de la Santé, et qui a fait beaucoup de choses pour la psychiatrie italienne, et je lui en avais parlé, de mes doutes, mon embarras à faire ce genre de photos, et il m'a dit, non, je crois pas, Raymond, rassure-toi, bon, peut-être par pure gentillesse, mais il m'a dit, tu sais, si tu ne fais pas ces photos, il y a un moment donné, on ne nous croira pas. Et lui, il avait commencé à Gorizia, et je crois qu'il y avait très très peu de photos de Gorizia, à la frontière yougoslave, dans une petite ville où ils avaient transformé la psychiatrie, ils avaient ouvert les portes, ils avaient prévenu tous les commerces, toute la mairie, la police et les commerçants. Et ça a été une expérience très forte dans l'historique de la psychiatrie au monde. Moi, j'étais trop tard, hein. C'était dans les années 70. Et donc, sans doute, il y a quelque chose. Inconsciemment, le début, le premier film, non, pas de photos. Et le deuxième, personne ne nous dit de venir, mais on est attendu.
Effectivement, en tant qu'ingénieur du son, je trouvais ça formidable de pouvoir enregistrer des voix très différentes qui venaient à nous. Et puis, j'ai pris conscience de la force de ce cursus. Quand des chercheurs sont venus nous demander de déposer nos bandes-son à la Bibliothèque nationale de France pour pouvoir travailler sur l'évolution du langage en France, et en nous disant « mais vous avez créé des conditions d'écoute que nous, on ne peut pas faire dans la rue avec un micro ». De 1980 à 2020, vous ne vous rendez pas compte, vous avez enregistré la France. Et là, effectivement, on a pris conscience, et c'est au moment de la sortie du film Les Habitants que ça s'est passé. Quand on a dit, on prend une caravane et on va donner la parole, après avoir photographié les paysages, on va donner la parole aux Français. Et là, ça a pris tout son sens quand on a déposé les archives à la BNF.
Créer les conditions d'écoute, justement. Alors, comment est-ce qu'on les crée, ces conditions? Dans le petit texte qui accompagne cette rétrospective, signé Alain Bergala, il qualifie votre cinéma moins un cinéma de mise en scène qu'un cinéma de dispositif. C'est-à-dire qu'il faut penser où est-ce qu'on va se placer, comment est-ce qu'on va se placer pour pouvoir dégager cette parole et cette écoute du spectateur.
Oui,
Godard, il disait la même chose, il n'y a qu'une seule place de caméra. Hein. On n'a pas fait mieux, hein. Il n'y a qu'une seule place de micro et qu'une seule place de caméra, d'une certaine façon.
Au niveau cuisine, je dirais un petit peu, parce que comme beaucoup de gens filment toujours, maintenant aussi, avec le téléphone, et les gens font des plans séquences. Et c'est sûr que moi, je me suis aperçu que si j'étais dans telle attitude, j'avais plus de chances de pas trop perturber un échange ou un dialogue entre deux personnes, même dans une institution, même que c'est prévu ou faut pas trop bouger. Donc être comme un abat-jour ou un pied, quelque chose d'assez statique. Et j'avais constaté que j'obtenais mieux les choses de ne pas bouger, de rester très longtemps.
Après, c'est aussi, patient, quoi. C'est aussi toute une volonté tout au long de la fabrication du film. Alors, nous, on était producteurs de nos films. Et je pense que du fait qu'en documentaire, c'est nous qui décidions de là où on mettait l'argent, on a obtenu cette qualité.
Hier soir, j'étais mal.
Vous n'étiez pas bien?
Oh, j'étais pas bien à la télévision. Je m'ennuyais, ça me faisait du mal. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vous savez, la télévision ne m'intéresse pas. C'était un western. Alors les westerns, basta. Hein. J'ai horreur des westerns. Pourtant, c'était Henri Fonda qui jouait et puis... Je ne sais plus qui. J'aime bien Henri Fonda, mais je n'aime pas les westerns. C'est stupide. Stupide girl, stupide boy, tout ce qu'on voudra. Mais c'est vraiment stupide. Mmh. Écoutez... Ils se font une gloire, il faut dire ce qui est. Ils ont vraiment travaillé pour en arriver où ils sont, les Américains. Et les premiers pionniers, ça aurait dû être drôle pour eux. Ils avaient les Indiens, ils avaient la vie dure, puis il fallait qu'ils fassent la
fête. On reste un petit peu dans notre sujet, vous.
Oui, oui.
Dès le début, on voit dans votre cinéma qu'il y a quelqu'un qui filme, qu'il y a quelqu'un qui enregistre. Vous le montrez même, il y a ce fameux panoramique dans Urgence, où on voit une Claudine Nougaret, assez enceinte, il me semble, tenir le micro, parce qu'il faut montrer que la patiente qui est en train de parler, ben, c'est à vous qu'elle parle. Mais voilà, il ne faut pas cacher qu'il y a des gens en train de faire du cinéma.
Oui, il faut être transparent, dire voilà, nous sommes là.
Il ne faut pas imposer notre point de vue. Je pense que la force de notre cinéma, c'est qu'on n'a pas voulu délivrer de messages. On a voulu rester comme au premier instant où on assiste à un entretien en psychiatrie ou avec un procureur et un prévenu. On a voulu rester intact.
On aurait pu se filmer en train de dire « Est-ce que monsieur voulait bien être filmé pour le film ?» Voilà, nous sommes ici pour faire un documentaire sur le fonctionnement. On n'a jamais fait ça parce qu'on ne veut pas imiter un plateau de télévision comme ils font des fois comme ça. On les voit... faire des choses comme ça dans des halls d'hôpitaux ou des halls de la police de commissariat. Moi, je ne voulais pas ça. C'est simplement, je ne me dissimule pas, je dis qui je suis et après, j'essaye de, non pas de passer inaperçu, parce que ce n'est pas
mais
vrai.
Moi, je crois que c'est comme fabriquer un meuble, c'est un artisanat. Je veux dire, on a poli l'image, on a poli le son jusqu'à obtenir cette espèce de fausse neutralité qui permet d'écouter. Raymond n'a pas fait des plans de coupe, Raymond faisait des plans séquences, on ne bougeait pas, et on privilégiait tout le temps l'écoute. Quoi. C'est vraiment moi, je me nous vois comme des artisans.
Je sais que je parlais le moins possible avec les personnes que je filme. Je n'ai pas à apparaître, là. Bon. Alors bon, c'est vrai que là, je m'oriente un peu plus vers les cinémas anglo-saxons qui ont une grande tradition. De pouvoir photographier, même aujourd'hui encore, les gens sur une plage, comme Martin Parr, à 2 mètres, là, et puis boum, et puis personne ne regarde le photographe.
Martin Parr, il affirme son intention. Nous, on n'affirme pas notre... Lui, il fait des couleurs criardes, il prend des postures. Nous, on travaille pas comme ça. On décide pas que tout le film, il va être criard et dégueulasse. Et on n'est pas du tout dans ce rare. Nous, on est dans l'identification du spectateur. Et on décide qu'il doit reconnaître son cousin, sa sœur, sa voisine, et que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que les films, ils vieillissent bien, parce qu'ils sont très polis à l'image et au son, très respectueux de la matière brute. Et l'idée, c'était un peu comme au début de l'écologie, on disait du direct, du producteur au consommateur. Et nous, on était quand même là-dedans. C'est-à-dire de vraiment avoir l'essence de la parole et de l'image qu'on a recueillie jusqu'au bout. Et aujourd'hui, 25 ans après, on regarde et ça marche. Et ça marche parce qu'on n'a pas flouté les gens, on n'a pas mis des bips, on n'a pas fait semblant. C'est vraiment eux et tous les gens sont merveilleux. On les a filmés comme des grands acteurs.
Oui, mais je pense que même des gens qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, qui étaient sans doute adolescents ou très enfants à l'époque du tournage... ont le souvenir de personnes comme ça qui leur parlaient de cette manière-là. Les gens un peu vieillis, bien sûr, ont pris un petit coup de vieux, mais la façon de parler, mais il y a toujours quand même la même chose entre un fonctionnaire ou une assistante de l'État, un docteur, etc. Et puis un patient qui arrive et qui est à bout, enfin, ou qui crie au secours. Je pense que, peut-être que dans, j'en sais rien, mais peut-être dans 2-3 siècles, on verra quand même que le film date des années 80, bien sûr. Mais c'est, moi, ça me gêne pas, ça. Au contraire, on rive, à moi, il me semble. C'est la même chose, d'ailleurs, sur d'autres sujets, sur les paysans, par exemple, où ça a été beaucoup plus difficile, parce que là, on n'était pas appuyé par l'institution, donc c'est purement...
C'était beaucoup plus difficile, les paysans, beaucoup plus. On était tout le temps en tension, tout le temps... inquiet de est-ce qu'on va arriver à donner la quintessence de ce qu'on voit et qu'on entend.
Et puis aussi, il y avait mon attirance, moi, bien sûr.
Oui, ça, c'était difficile. Son attirance. Son attirance, il ne s'arrêtait jamais.
comme j'ai pas pu filmer mon père, je me suis dit, bon, voilà, je vais aller filmer les autres. Et c'est vrai que je pouvais pas non plus filmer mon frère, et parce qu'il me connaissait trop. Moi, je me souviens, ces vieux garçons de Lozère, comme ça, qui sortaient pas de leur cuisine, ou très peu, et qui me disaient, on va dans le mur, quoi. J'ai dit, mais on va dans le mur. Parce qu'on dépense trop de choses. C'est un gâchis de la planète. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on s'arrête, parce que ça va pas aller comme ça. C'est incroyable, quoi, parce qu'ils n'avaient pas lu aucun édito ni écouté une radio. Ils le voyaient, ils le sentaient comme ça.
Est-ce que vous pensez que d'être un couple au travail et de vous afficher comme tel, quand vous allez voir les gens que vous filmez, a facilité d'une certaine façon votre travail et votre écoute?
Oui, moi je crois, oui. Je pense que d'être un homme et une femme, ça rassure. Pour pas mal de personnes, et parce qu'ils trouvaient toujours à s'identifier à l'un ou à l'autre. Et puis, nous sommes des gens modestes et avec des réflexes de couple un peu bêtes, sans prétention. Comme techniquement, c'était un peu compliqué ce qu'on faisait, on était un peu mauvais, et ça les rassurait que... Alors, des fois, ils disaient, mais madame, on va tenir la perche à votre place. Je disais, non, ça va aller, il n'y a pas de problème. Et ils voulaient toujours m'aider à porter les sacs. Et ça créait quelque chose de... Bon, c'est vrai que moi, je suis tombée très malade à la fin des paysans, parce que je crois que j'avais beaucoup donné, hein, quand même. Mais oui, je pense que d'être un couple, c'est important. Mais moi, je trouve que la parité au cinéma, derrière la caméra, c'est très important. Et qu'il n'y en a pas assez. Et que ça induit beaucoup de films très masculins, lourds. Le fait que les équipes soient principalement masculines. Bon, c'est pour ça que j'ai fait un prix, le prix de soutien aux jeunes techniciennes, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à ouvrir vers un autre regard de la société, je pense. Et pas uniquement féminin ou masculin. Il faut la parité, il faut vivre ensemble. C'est pas facile, hein.
Alors, ce qui est drôle, une petite anecdote qui me revient, là, parce que nous, on s'est disputé des fois devant eux, bien sûr, forcément, comme un coup. Alors, c'est là où ça les rassurait, parce qu'ils disaient, voilà. Mais le chose qui est plus drôle qui est arrivée, c'est qu'à un moment, c'est des gens qu'on connaissait très, très, très bien. Ils se sont mis
à s'engueuler
très fort. Eh bien, la caméra s'est arrêtée. Elle est tombée en panne. Et alors, dans un certain sens, je me suis dit, mais c'est pas vrai, quoi. Tant mieux, parce que j'aurais été tenté de le mettre un peu dans le montage. On sait bien qu'à Teva, quand même...
Ça aurait donné du pied à là, quoi. Donc, c'était pas l'idée, quoi.
Et donc, ça, c'est comme quoi, je sais pas quoi, le Saint... Je sais pas qui c'est Saint-Christophe, non? Pas là, peut-être, parce que Saint-Christophe, c'est pour le voyage.
Mais on a fait un film de coupe, vraiment, c'est Journal de France, où on a fait deux lectures du film. Mais moi, j'ai eu l'impression que la presse, elle comprenait pas. Moi, je trouvais ça super révolutionnaire de dire, ben, c'est pas les frères Dardenne, c'est pas deux hommes, c'est un homme et une femme qui se parlent comme ça avec la pellicule et qui racontent deux façons de voir. Et ben, ça n'a pas été compris. Je sais pas, il y a quelque chose qui a pas. Et alors que le film, il se regarde aujourd'hui, ça marche très bien. Cette parité, elle est évidente maintenant. Et il y a, je sais plus, il y a combien d'années on a fait ça? Il y a 10 ans ou 15 ans, c'était pas du tout évident, quoi.
Ça rassure tout le monde de voir Claudine, parce que quand on va un petit peu, on n'y va pas souvent, mais ça nous arrive de voir un peu les écoles de cinéma, on voit qu'il y a il y a beaucoup de filles et de garçons, c'est mix.
Oui, après, sur les plateaux, il n'y a que des garçons. Hein,
c'est... Que des garçons, quoi. C'est ça pour ça
que... Il y a plutôt même une régression, moi, je trouve. Ouais. Mais bon, nous, on aura laissé une trace comme ça, c'est possible. c'est possible. Et nous, ça nous a permis d'élever nos enfants, d'avoir une vie de famille. Voilà, c'est quelque chose qu'on a voulu, on n'a pas voulu. Autrefois, les femmes, elles mettaient les enfants en nourrice pour partir travailler. Donc nous, on a pu composer avec ça. C'est possible, il faut le dire aux gens. C'est une volonté, quoi.
On n'avait pas beaucoup d'enfants, mais enfin quand même.
Bah quand même deux, c'est pas mal.
Pardon citoyen, en 7 documentaires indispensables, c'est à voir sur grand écran depuis mercredi. Les prochains volets de Pardon photographe, de Pardon paysan et de Pardon et l'Afrique, ce sera respectivement pour les 4 février, 4 mars et 29 avril prochains. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on écoute cet En avant soldat de la péricole d'Offenbach, eh bien revoyez en salle le début de Faits divers. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on vous emmène à présent en Amérique latine, de l'Argentine au Brésil en passant par le Paraguay, sur les traces d'un des pires criminels de la Seconde Guerre mondiale, le médecin nazi Joseph Mengele, l'ange de la mort d'Auschwitz, qui sélectionnait les déportés promis à la chambre à gaz et pratiquait sur d'autres de monstrueuses expériences. Adapté du livre éponyme d'Olivier Guèze, prix Renaudot, s'il vous plaît, en 2017, la disparition de Joseph Mengele retrace la cavale sud-américaine du médecin bourreau. Et comment, pour reprendre les mots de l'écrivain, cet homme, à force de changer d'identité, finit par s'auto-dévorer. Le trublion russe exilé à Berlin, Kirill Serebrennikov, habitué des compétitions canoises, a été en mai dernier remisé à Cannes dans une section parallèle pour éviter sans doute de surexposer son potentiel polémique. Confrontation avec une figure du mal absolu, mise en scène la plupart du temps, avec de toujours époustouflants plans séquences, le film évite en effet de peu la fascination pour celui-ci, jusqu'à une très problématique reconstitution en couleur et Super 8 des crimes de Mengele dans le camp d'extermination qu'assume pleinement le cinéaste. Il s'en est expliqué à notre micro lors de son passage à Paris. On va l'entendre dans un instant. Après une plongée sonore dans le Buenos Aires de l'immédiate après-guerre, infesté comme il se doit de nazis paranoïaques.
Señor, está cerrado.
Eva Perón, se la había quedado en las puertas de la educación.
Esto es
castigado.
¿Y ahora? Otra reforma.
¿Qué reforma? ¿De qué reforma me estás hablando? Si estos tipos se van a robar todo igual que nosotros, que nos dejaron a la gama todo. Esto es una locura, no se puede creer con esto. Son los mismos rotos de antes y están, van a hacer lo mismo de antes. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo que hicieron.
Perdona, sí, me queda
re. ¿Culán está bien?
Ya lo leí. Lo leí.
Al aeropuerto. Ahora.
Te queda mejor, viste. Aquellos van directo.
No es importante, apúrese.
La puta.
Tengo prisa, señor.
¿Y yo qué quería comer?
Ya te dije que era más fácil del otro lado de la calle.
Bah, es tu vida.
Bonjour, Kirill Serebrennikov.
Bonjour.
La question du mal, la question du mal dans la vie quotidienne traverse votre filmographie. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces personnages-là?
L'enquête, si je puis dire, la recherche sur le mal, c'est quelque chose de capital pour l'art. Il me semble simplement que parfois, le public et les gens qui parlent d'art essaient justement d'éviter ces thèmes-là, d'éviter ces sujets-là, mais le mal revient de toute façon. Parce que, on oublie son visage. Peut-être que vous vous souvenez du film L'Orange Mécanique, Kubrick avait inventé pour empêcher le héros d'être attiré par le mal. Il lui avait, avec des sortes d'instruments, il lui avait mis dans, entre les paupières pour l'obliger à voir sur un écran la violence, des scènes absolument horribles, et les larmes, et l'impossibilité de fermer les yeux. Soignait en fait plus ou moins ce héros. Peut-être que c'est naïf, mais je pense que justement c'est l'art sert de ces petits instruments-là. C'est comme ces petits instruments-là, on oblige les gens à regarder des choses qui ne sont pas forcément agréables. Mais c'est via ça que l'art forme justement des anticorps au mal dans nos corps à nous.
Mais pour nous faire regarder le mal, il faut que déjà vous le regardiez, que vous l'exploriez, que vous le travailliez. Je voudrais vous soumettre une citation de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, qui disait « Si tu plonges longtemps ton regard dans l'abîme, l'abîme te regarde aussi. »
Bien sûr, tout le monde répète cette phrase, mais si effectivement il y a le mal qui te regarde, tu dois être suffisamment fort pour lui résister. Sinon, que ce serait quelle conclusion ? Ça voudrait dire que tu tombes dans ce trou noir, ou alors est-ce que tu essaies de l'éviter, de faire semblant qu'il n'existe pas, mais à ce moment-là, c'est cet énorme trou noir qui va finir par t'engloutir. Il ne faut pas avoir peur de ce trou noir. Et pour ne pas craindre ça, il faut faire des recherches dessus. Parce qu'il n'y a que la connaissance, que l'éducation, que la culture qui sont aptes à protéger l'humanité du fait que cette humanité risque d'être engloutie. Par ce mal.
Le risque aussi, quand on met en scène un tel personnage, la fascination du mal, comment est-ce que vous posez ces questions quand vous le mettez en scène, en se disant, je dois montrer ce personnage sans tomber dans la fascination, ni pour moi, réalisateur, ni pour le spectateur?
On a beaucoup parlé de cela avec Auguste Diehl, qui joue le rôle principal du docteur Mengele. Comment faire en sorte que le public ne soit pas en empathie avec lui, parce que Diehl est dans tout le film, du début à la fin. Et il n'y a pratiquement pas un seul plan sans lui. Et donc, on s'est toujours posé cette question-là, on y a pensé tout le temps. L'important pour nous, c'était qu'il n'y ait aucune empathie de la part des spectateurs envers ce personnage.
Et comment on fait, justement ?
Ça, c'est sans doute, ça dépasse le cadre de notre discussion d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est lié à notre métier. Et comment justement arriver à construire la distance entre soi-même et le personnage qu'on joue. Comment trouver des sons qui vous donnent l'image, l'idée de l'authenticité.
J'ai l'impression que ça passe beaucoup par le regard de Mengele, que vous mettez beaucoup en scène ce regard.
Oui, parce que c'est un moyen de montrer ce qui se passe à l'intérieur du héros, parce que les yeux sont le miroir de l'âme. C'était important pour moi d'éviter parfois, d'ailleurs, d'éluder ce regard. Parce que très souvent, j'ai filmé Mengele derrière lui. Dans son dos, on voit essentiellement les trois quarts de son visage, de sa silhouette seulement. Et pas toujours ses yeux grands ouverts.
Vous avez choisi pour une énorme partie du film de le tourner en noir et blanc. Vous nous plongez dans une esthétique qui est celle du film noir de l'après-Seconde Guerre mondiale. On est presque dans Le Criminel d'Orson Welles par moment. Il y a eu beaucoup de films qui montraient des nazis dissimulés dans la société. C'est ça aussi que vous vouliez travailler ?
Bien sûr, je voulais faire un drame, mais dans l'esthétique du film noir. Parce que la base du film, c'est quand même à la base cette ligne du père et du fils.
Parce
que c'est une histoire dramatique. Quand le fils va retrouver son père pour aller lui poser des questions absolument terribles, qui soient particulièrement importantes pour ce fils. C'est une question importante à poser. Est-ce que c'est vrai, père, ce qu'on dit de toi ? Parce que maintenant, ça, c'est des questions qui se posent directement au fils lui-même. Et donc, j'ai fait de cette ligne quelque chose de, une ligne principale, en fait, parce que si on avait tourné un film sur la manière dont le Mossad recherche Mengele, on aurait trouvé une autre esthétique. Alors que là, là, non, justement, dans ce film-là, il n'y a rien que Mengele ne sache déjà. Il n'y a que ce que lui-même sait. Par exemple, il ne sait pas comment le Mossad est en train d'imaginer le kidnapping de Eichmann. Lui, il ne sait que ce qui se passe autour de lui. Et cette situation de panique, de terreur permanente et froide dans laquelle il est en permanence, c'est ça sans doute son châtiment principal.
Ces questions que les fils posent au père, ça a été la grande problématique de, notamment du cinéma allemand des années 70, 80. On peut penser à Schlöndorff, on peut penser à Wenders, Herzog, Fassbinder. Tous ces gens-là ont demandé effectivement à leurs parents ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait pendant la guerre. Et vous, vous montrez des nazis qui ne sont pas du tout repentants, qui sont un peu partout et qui sont y compris très intégrés dans la société allemande, dans l'économie et la politique allemande.
Je suis absolument d'accord avec vous. Simplement, j'élargirai cette question. Cette question est très actuelle aujourd'hui. En fait, je pense que nos enfants ou nos disciples, nos élèves, nos successeurs, un jour, reviendront vers nous et nous poseront la question de savoir « Mais comment est-ce que vous avez passé votre vie entière de telle sorte que vous nous ayez laissé sous forme de testament un monde dans cet état-là, avec une écologie dans un état terrible, une vraie catastrophe, avec des guerres qui ne cessent d'éclater, avec cette pauvreté. Comment est-ce que vous avez pu vivre avec ça ? Comment est-ce que vous avez fait pour qu'on en arrive là ?
Le monde que vous décrivez, c'est aussi un monde où on se traite facilement de nazis, d'antisémites. Vous, c'était important de montrer ce que c'est un nazi, vraiment.
Simplement, moi, ce qui était important pour moi, ce qui me paraissait important, c'était que ces choses-là ne soient pas des figures du silence. Parce que dans cette indétermination, il y a toujours un piège qui est caché. Il y a effectivement quelque chose...
В этой неопределенности всегда кроется уловка.
Et la possibilité de se fourvoyer dans cette indétermination-là. La phrase principale de la propagande russe aujourd'hui, tout n'est pas si simple, tout n'est pas si clair. Ça veut dire que le mal n'a pas un visage défini. Aujourd'hui, ils disent que les Ukrainiens sont des nazis parce que ça leur permet de déshumaniser l'ennemi. Et dans cette hybridité, dans cette forme hybride, il y a, c'est là que se cache le mal. C'est pour cela que, pour moi, c'était important de montrer que le nazisme, c'est effectivement tuer quelqu'un, qu'on a tué des gens à Auschwitz, que les nazis étaient antisémites.
Et c'est pour ça qu'il fallait montrer de façon très explicite les crimes de Mengele à Auschwitz. Il y a ce petit film en Super 8, en couleur, comme si ça avait été tourné par les nazis eux-mêmes, très fiers de ce qu'ils font, très rigolard, en torturant des déportés. Il fallait être explicite à ce point.
Parce que sinon, comment répondre à la question de savoir ce que Mengele avait fait à Auschwitz ? Peut-être qu'il soignait des gens, que c'était un gentil docteur et qu'en fait il aidait les autres parce que lui, il était médecin. C'est pour ça que moi, je pense que c'était important ici de mettre ces petits instruments dans les yeux des gens et y compris les nôtres, de nous obliger à regarder et à rafraîchir notre mémoire. Et de former aussi cette mémoire aux générations suivantes. Parce que je pense que nous devons être, vous et moi, de la même génération, et nos lignes rouges, nos traumas sont liés à la compréhension de ce qui est véritablement le mal et de ce qu'il est impossible de faire. En tout cas, pour moi, c'est lié avec des films formidables qui ont montré des choses qui sont horribles. On dirait presque des films d'horreur aujourd'hui. Mais le film, par exemple, de Elem Klimov, Requiem pour un massacre, dans lequel on voit un village biélorusse brûlé sous les yeux, et on le voit par les yeux d'un garçonnet, cela a formé pour moi ce sentiment que la guerre est intangiblement le mal, et qu'il n'y a pas de « mais » derrière cette phrase.
Il se trouve qu'en ce moment, vous montez un Hamlet au théâtre du Châtelet. L'image qu'on retient d'Hamlet, c'est toujours ce crâne. Et c'est par un crâne aussi que commence la disparition de Joseph Mengele.
Oui, mais c'est des crânes vraiment différents. En fait, moi qui suis bouddhiste, pour moi, un crâne, ce n'est pas le symbole de la mort, ce n'est pas que la memento mori de la culture européenne. C'est l'image de la défense de... Dans la tradition bouddhiste, les crânes, ce sont justement ceux qui vous défendent contre les envahisseurs, les méchants. D'où le fait que dans Hamlet, je suis ravi évidemment de pouvoir jouer avec ces crânes. Mais dans Mengele, dans la disparition de Joseph Mengele, c'est complètement autre chose.
On pourrait prendre aussi ça comme une image du cinéma, c'est-à-dire qu'un film au départ, c'est un squelette, c'est un scénario, et puis il faut mettre de la chair, et c'est pendant le tournage que ça va se faire. Je suis toujours très frappé dans vos reconstitutions historiques, puisque Limonov, c'était aussi une reconstitution historique, à quel point vous donnez le sentiment d'être presque en reportage dans un temps qui existe réellement. Comment est-ce que vous pensez ces questions de la reconstitution du film en costume ?
Faire un film historique, c'est absolument enthousiasmant, en fait. Tu plonges dedans parce que tu dois restaurer et de la fabriquer une réalité et essayer de convaincre les gens que c'était effectivement comme ça. Et à chaque fois, je donne mon exemple préféré, justement pour arriver à réaliser ça, c'est la Reine Margot de Patrice Chéreau.
Quand
les costumes sont complètement différents de ceux qu'on aurait dû avoir, les décors, ça n'a rien à voir avec ce que ça aurait dû être, mais le sentiment, la sensation est d'une super vérité. C'est absolument incroyablement vrai. On arrive à se dire qu'il n'y avait que comme ça que c'était possible. Et c'était comme ça. Et presque en même temps, il y avait sur la télévision soviétique, au moment où le film français est sorti, il y avait une série aussi qui s'appelait La Reine Margot, qui était une série soviétique.
Et
là, ils avaient justement été chercher les vrais costumes, ils avaient des véritables copies des vrais costumes, des vrais décors. Et tout ça, ça faisait juste penser à Disneyland, en fait. Et c'était vraiment fake, comme on dit, parce que dans l'art, c'est intéressant d'aller chercher comment arriver à rendre la vérité.
Cette vérité d'un monde qui a l'air d'exister, ça passe toujours chez vous par le plan séquence, par ces très longues prises qui se promènent à l'intérieur de ce monde. Ça nécessite beaucoup de temps de répétition, j'imagine, presque des jours de répétition. Quel plaisir vous avez dans ces répétitions, même, qui sont peut-être ce qu'il y a le plus proche de votre travail de théâtre, Kirill Serebrennikov ?
N'est pas lié du tout au théâtre. Je pense que c'est plutôt lié avec l'envie de montrer aux spectateurs que nous ne le trompons pas. Nous ne lui montons pas, parce que le montage, c'est toujours mentir, c'est toujours tromper. Le montage a été mis au point, si je puis dire, par des soviétiques, des metteurs en scène soviétiques, propagandistes, Eisenstein, Dziga Vertov, Lev Kuleshov, c'est eux qui ont inventé le montage et les miracles du montage. Mais c'est des gens qui travaillaient pour la propagande. Et il n'y a eu que quand le moment est arrivé de pouvoir se détaché de ce côté, de cette queue de la comète de la propagande, à ce moment-là, on s'est éloigné de ce montage-là, d'où le fait qu'il y a eu ce montage à l'intérieur du cadre, à l'intérieur du plan qui est arrivé. Quand on voit que la caméra ne s'éteint pas, qu'elle continue de tourner et qu'elle tourne dans tous les sens à 360 degrés, là, à ce moment-là, le spectateur nous fait plus confiance, il nous croit plus.
Merci beaucoup, Kirill Serebrennikov.
Merci à vous. La disparition de Joseph Mengele est sortie en salle ce mercredi. On vous en laisse juge. Merci à Joël Chaperon d'avoir traduit les propos de Kirill Serebrennikov. Vous écoutez France Culture, Plan Large. Et dans vos salles cette semaine, il y a encore ceci. Well, I guess that he don't know it, but I'm the outlaw scum. Fuck, you know, somebody ought to warn him before I knock him straight to hell. Because everybody knows I'm a scumbag. I like sluts and whores and I don't care. You can sit just what you want to say about me. But if I hear you, I might come over there and fucking knock you out your chair. Because I like drinking whiskey by the gallon. Even if I'm peanut butter fucking sandwich, I don't care. Spent some nights in jail in this motherfucking old country. You know that everybody fucking hates me and I just don't fucking care. Like singing all them songs about bitches and I still fuck all the prostitutes that I know. They tell me I smell like my sewage, but I'm just the man you'll never know. And everybody already knows that I'm a scumbag.
Cet homme qui, dans un tuyau de béton qui lui sert d'abri, chante à la guitare le salaud qu'il est, le scumbag, c'est un des personnages que Jean-Baptiste Toré, grand connaisseur du cinéma américain et chantre des déclassés des États-Unis, a rencontré dans les souterrains de Las Vegas, dans ce vaste réseau d'évacuation des eaux usées, régulièrement inondées en cas d'orage, vivraient 2000 exclus, plus ou moins volontaires du système, des personnages à la John Carpenter d'Invasion Los Angeles, qui vivraient dans son post-apocalyptique New York 1997 et que le critique devenu cinéaste filme parfois comme Dario Argento entre pénombre inquiétante et filtre monochrome. Ça commence comme une fable fantastique et ça tourne au film social Wiseman-Fordien. C'est très beau et passionnant, ça s'appelle The Neon People et on en aurait bien parlé avec Jean-Baptiste Toré, mais il sera ce soir dans sa maison d'origine qui est Mauvais Genre et c'est très bien comme ça. Du même Jean-Baptiste Toré, on signale la réédition définitive et augmentée d'un de ses livres fondateurs sur Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, une expérience américaine du chaos, ça pourrait d'ailleurs être le titre de son nouveau film, ça vient de paraître aux éditions Carlotta. Ne ratez pas non plus en salle le superbe film d'animation Arco, premier long métrage d'un grand bédéaste, Hugo Bienvenu, qui met en mouvement l'univers qu'il a développé dans ses déjà formidables albums Paiement accepté et Préférence système, avec une justesse bouleversante dans les gestes parfois les plus simples de ses personnages. On dit de lui que c'est le Miyazaki français, mais c'est encore autre chose, courez-y voir, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis enfin, il y a ce beau film dont nous avions déjà parlé avec sa réalisatrice au dernier festival de Cannes. Après Tu mérites un amour et Bonne mère, la grande actrice qui est Afsia Herzi a définitivement gagné ses galons de cinéaste avec son nouveau film adapté du livre éponyme de Fatima Das. La petite dernière est le récit d'une émancipation, celle d'une adolescente de banlieue d'origine algérienne, clivée entre sa foi, les traditions familiales et son attirance pour les femmes. Le sujet pourrait sembler éculé, or Afsia Herzi échappe à tous les clichés du film de banlieue et du récit d'émancipation par la grâce de son écriture, sa capacité à recréer la vie la plus quotidienne à l'écran, et surtout son regard sur cette jeune femme énigmatique et taiseuse, formidablement interprétée par une nouvelle venue, Nadia Meliti, repartie de la croisette avec un très mérité prix d'interprétation grâce au regard que porte sur elle la cinéaste qui en tire presque une étude de visage beau et énigmatique. Ce n'est pas pour rien que quelqu'un dans le film la compare à la Joconde. Afsia Herzi rencontrée donc sur une terrasse cannoise.
Tu fais un peu trop du par cœur. Faut qu'on comprenne. Faut que...
Tu comprends pas quand je parle, c'est pas français.
Je comprends, mais j'ai pas l'impression que toi tu comprends ce que tu dis.
Bah si, je comprends. Déjà, faut qu'elle connaisse bien et après pourra mettre.
Faut que ce soit tes mots.
Bah, c'est mes mots.
Bref, vas-y, continue.
Vas-y, bah, tu vois.
Ouais, je recommence.
Dès que j'ai vu la photo de Nadia Meliti qui incarne Fatima, j'ai tout de suite été frappée par son regard et ce qu'elle dégageait, juste voilà, à travers la photo. Et elle m'a fait penser un peu à la Joconde, un petit peu. Et c'est pour ça que j'ai réadapté justement ce dialogue. J'avais envie qu'un autre personnage lui dise indirectement que voilà. Elle ressemble à la Joconde.
Ce qui est très fort chez Nadia Meliti, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est comme ça ou c'est parce que vous l'avez dirigée comme ça, mais c'est quelqu'un qui est à la fois très physique et très dans la retenue. Et exactement. C'est dans cette tension-là que vous la filmez.
Alors moi, ce qui m'a plu chez elle, c'est qu'elle fait des études de sport. Dans la vie, elle est très sportive, elle fait du foot. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, surtout quand je lui ai demandé de me montrer des vidéos d'elle faisant du foot. Je trouvais ça super. Et du coup, je l'ai intégrée au personnage. Dans le livre, le foot n'existe pas. Et son côté sportif m'a beaucoup plu. Parce que pour le personnage, il fallait vraiment quelqu'un qui ait un mental quand même assez fort, qui soit aussi forte physiquement. C'est important pour moi, qui est ce corps. Et en tant que sportive, elle avait pas de problème avec ça. Ça, c'était cool.
Alors, c'est aussi avec beaucoup de subtilité que vous filmez des larmes. J'ai trouvé ça très surprenant parce que le film n'est pas lacrymal du tout. Il n'est pas là pour nous faire pleurer avec des émotions un peu fabriquées. Mais on sent que voilà, filmer ne serait-ce qu'une larme qui coule sur une joue, c'est quelque chose qui vous passionne presque.
Oui, la subtilité et surtout, c'est surtout les émotions. Essayer de filmer les émotions avec subtilité. La subtilité, c'est le mot d'ordre. Parce que je pars du principe où, enfin déjà moi j'aime ça, j'aime la subtilité, pour que le spectateur puisse interpréter ce qu'il souhaite, et surtout on voit tout à l'image. Donc voilà, en faire le moins possible, ressentir, vivre, sans essayer de fabriquer.
J'envoie des kisses, donne tes bijoux dans le cou, c'est beau mais quand même ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi je m'en moque, j'en vois valser les trucs en toc, les cages dorées. Toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor.
La petite dernière d'Afsia Herzi est sortie en salle lui aussi ce mercredi. C'est un film soutenu par France Culture et on s'en réjouit. Pour en savoir plus, vous pouvez en podcast réécouter l'interview de l'actrice et cinéaste par Nicolas Herbeau. Elle était il y a une semaine l'invitée des matins du samedi. Une autre grande cinéaste à découvrir et redécouvrir, c'est la d'abord soviétique puis ukrainienne Kira Muratova. On avait il y a déjà 6 ans consacré un plan large entier à la contemporaine oubliée de Tarkovski ou Konchalovski, une des réalisatrices les plus sensuelles censurée de l'ère soviétique, autrice d'une exigence inflexible et refusant toujours de plier les chines, dont les films décadrés et disruptifs dans leur narration, saturés de personnages passionnés, soliloqueurs, doux, dingues et mélancoliques, le tout baignant dans une bande-son volontiers dissonante pour ne pas dire cacophonique, sont enfin rassemblés en coffret Blu-ray, c'est chez Potemkin, avec des commentaires avisés de la spécialiste de la cinéaste Eugénie Zvonkin. Si vous êtes dans l'Est de la France, enfin, ne ratez pas l'occasion de voir et revoir l'œuvre magnifique du plus grand des cinéastes transalpins en activité, Marco Bellocchio, honoré avec la ville de Venise par le Festival du film italien de Villerupt. C'est jusqu'au 11 novembre. Ceci annoncé, il est temps, une fois encore, de faire face à la musique et de danser.
There may be trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have played, before they ask us to pay the bills, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then there may be teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance.
Y a-t-il plus gracieux qu'un Fred Astaire en queue de pie, dansant avec une Ginger Rogers en robe pailletée brillant de mille feux sur cette chanson, composée d'ailleurs tout exprès par Irving Berlin pour le grand final de Follow the Fleet, en suivant la flotte en français, de Mark Sandwich, c'était en 1936, surtout quand on se souvient que le geste dansé succède sans solution de continuité aux tentatives de suicide des deux personnages. Un passage du suicide au bonheur chorégraphique qui relève du sublime, écrit Alain Masson dans un livre paru il y a 45 ans, devenu depuis introuvable et judicieusement réédité par les éditions Marest. Ça s'appelle tout simplement comédie musicale, un genre qui a évidemment suscité une très très abondante bibliographie. Qu'est-ce qui fait l'originalité et le regard spécifique d'Alain Masson, Ntebine, vous qui connaissez sur le bout des doigts et chantez le musical comme personne?
Je crois déjà que c'est son côté pionnier, puisque Alain Masson a été l'un des rares théoriciens de la comédie musicale au début des années 1980, mais déjà un peu avant dans Positif. Et ensuite, ce genre a été, disons, réévalué à l'aune de genre critique plus actuel, notamment politique ou genré, etc. Mais voilà. Alors, ce qui fait aussi le prix de comédie musicale d'Alain Masson, c'est le fait qu'Alain Masson est un vrai styliste, c'est-à-dire c'est un écrivain et c'est un philosophe aussi, avant d'être un critique ou en même temps. C'est un plaisir absolu que de lire ce livre qui s'adresse à deux catégories de personnes et qui est indispensable pour cela. D'une part, les personnes qui adorent la comédie musicale et qui vont là approfondir les raisons même de leur goût pour ce genre. Et d'autre part, les gens qui n'aiment pas la comédie musicale et qui, après avoir lu Alain Masson, vont avoir envie de revisiter ce dont il parle d'une façon aussi à la fois intelligente mais concrète. C'est-à-dire que quand il décrit une scène, même si on la connaît déjà, on a envie de retourner voir tout de suite pour mesurer la pertinence de ce qu'il écrit. Là, la séquence dont vous nous avez passé l'extrait discographique, par exemple, c'est une séquence qui a été reprise dans de nombreux films, y compris par Guillermo del Toro dans La forme de l'eau, d'ailleurs, où il reproduit son décor quasiment à l'identique. Mais Alain Masson, alors, il replace chaque séquence, chaque personnalité dans son contexte. Il fait l'œuvre aussi d'historien. Et je ne peux pas résister à la tentation de vous lire quelques extraits.
Allez-y.
Voilà, sur Fred Astaire. Alors, c'est de la dentelle, parce que ce que Alain Masson dit en 15 pages, je vais essayer de le résumer en un paragraphe. Astaire est un homme seul. Dans Tous en scène, il chantera cette solitude. By myself, sur le quai d'une gare où personne ne l'attend et où la foule tourne ses regards vers la vedette du jour, il évoque avec un sourire mélancolique ce bonheur minimal, être soi-même et se contenter de soi, avant d'entrer dans l'espace plus riche et plus dangereux du couple et de la comédie. Ses vertus et ses défauts n'appartiennent à aucune classe. Nonchalant et sincère, il ne peut appartenir ni au peuple laborieux, ni à l'hypocrite bourgeoisie. Détaché, il vit une liberté. Mais l'intérêt du personnage vient de ce qu'il a toujours su éviter, que cette liberté ne soit présentée immédiatement comme une plénitude. Cette modération s'annonce d'ailleurs dans la personne physique, maigreur, calvitie, invariablement naissante, petite taille, visage ironique et modeste. Fred Astaire n'a jamais l'avantage au départ. Situation précaire et quiproquo le mettent toujours dans l'embarras, mais il n'est jamais embarrassé. Comme danseur, il ne mise pas sur l'éclat, mais sur l'exactitude des gestes et l'économie des forces. Les premiers pas d'une danse ont souvent cette apparence de timidité et de douceur. Puis l'espace s'agrandit, la silhouette du danseur, quand elle développe la richesse de ses mouvements, semble commander le décor qui l'entoure sans la contraindre. Gene Kelly joindra en virtuose la nonchalance et l'effort. Astaire réunit le soin et la grâce. Ce sont les claquettes qui, tout au long de l'histoire du genre, affirmeront ce caractère formel. Leur valeur propre tient à ce qu'elles intègrent réellement le corps à la musique. Les pieds y deviennent un instrument rythmique. L'interpénétration du corps et de l'art atteint donc la perfection. Alors là, c'est vrai que c'est difficile de parler par-dessus, en fait, ce bonheur d'écriture qui rejoint le bonheur de revoir ces films-là. Et il ne s'attache pas qu'aux figures emblématiques du musical, il va aussi chercher les spécificités d'un genre qui naît de la division du travail selon le système hollywoodien. C'est-à-dire qu'Alain Masson va distinguer le producteur Arthur Freed du producteur Jack Cummings ou Joe Pasternak. Il va distinguer les gestes chorégraphiés par Bob Fosse de ceux par Jack Cole ou par Michael Kidd, par exemple. Et il va s'attarder sur la fin du musical lorsque une grève dans une usine de pyjama peut faire l'objet d'une comédie musicale. Only 5 years from today, I can see it all before me. Only 5 years from today.
5 years. Now let's see. That's 260 weeks times 40 hours every week, and roughly 2.25 hours overtime, and time and a half for overtime comes to exactly $852.74. Hooray! That's enough for me to get an automatic washing machine, a year's supply of gasoline, carpeting for the living room,
a vacuum instead of a plastic room,
not to mention a 40-inch television set.
So, although 7.5 cents doesn't buy a heck of a lot, 7.5 cents doesn't mean a thing, but give it to me every hour, 40 hours every week, that's enough for me to be living like a king.
I figured it out with the pencil and the pad. I figured it out. Only 10 years from today, only 10 years from today, I can see it clear as daylight. Only 10 years from today.
10 years. Now let's see. 520 weeks times 40 hours every week at roughly 2.25 hours overtime, a time and a half for overtime, comes to exactly $1,705.48. Hooray!
huskies and maybe even a foreign car.
A charger caught at the corner bar.
Not to mention a ping pong set with paddles made of gold.
So, although
I figured it out.
Merci Yann Tebbine. Comédie musicale d'Alain Masson, c'est donc chez Marest Bis et on profite de votre présence pour signaler la parution aux impressions nouvelles d'un passionnant Joseph L. Mankiewicz, Le jeu des formes sous votre direction et celle de Vincent Amiel et José Moore. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Corentin Bailly et Ludovic Auger et Timothée Hubert. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.